on rapporte une histoire abracadabrantesque.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis le bruit et la fureur.
Travaillez plus pour gagner plus.
Je vous demande de vous arrêter.
Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin.
T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs.
Pas content, pas content.
On s'énerve pour rien, vous vous énervez pour rien.
Pas content.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé?
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
Bienvenue à toutes et tous sur Bonjour Turbine, une émission où se mêlent sérieux, humour et sagesse. Nous sommes en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Mais aucun souci pour ceux qui rateraient ce direct, vous pourrez toujours nous écouter sur les canaux habituels que sont Audioblog d'Arte, Spotify ou Deezer en cherchant Bonjour Turbine. Aujourd'hui, on a sorti nos plus belles plumes, nos regards acérés et nos plus belles lunettes pour la lecture. Car nous vous emmenons dans le monde merveilleux que sont les bibliothèques et les médiathèques. Pour vous emmener à travers ces rayons, on vous a préparé les meilleurs agents. Thomas,
notre aventurier au milieu sous les ondes.
David,
l'âme pure mais la plume acérée digne du tribunal des flagrants délires.
Dakota,
l'historien au charme discret mais qui sous son chapeau cache artefacts et fac d'Arte.
Jonathan,
douce présence aussi sportive d'idées que musclée, ou l'inverse, rien n'est clair.
Dorothée,
la petite dernière qui trône sur le présentoir, nouveauté.
Et bien entendu, Léna qui m'accompagnera et parsèmera cette émission de sa culture et son savoir littéraire.
Bonsoir à tous.
Sans plus attendre, je me dois de laisser Thomas vous donner un petit cours sur comment fonctionne une bibliothèque.
Radio.
Bon, alors je précise, je vais pas donner un cours, je pense que tu es beaucoup plus légitime que moi pour le faire, Lafken. Je vais plutôt vous parler de mon rapport en tant que petit citoyen aux bibliothèques et aux médiathèques, pourquoi je trouve ces lieux si cool et à mon sens malheureusement sous-cotés. Alors je me souviens dans ma tendre jeunesse, la médiathèque du Houlme à Briouze, c'est bon j'ai placé ma ville, ce lieu qui me permettait de me canaliser, de faire respirer le temps d'un instant mes parents, un super lieu où je me vautrais dans un bouffe pour lire un Titeuf avant de repartir avec sous le bras tout un tas de BD. En grandissant, va savoir pourquoi, comme beaucoup, j'ai déserté ces lieux. Je n'y prêtais même plus attention, pris dans le tourbillon de la consommation. C'était l'achat qui primait, il fallait posséder des œuvres. Quel petit con! Mais, un beau jour, j'ai repassé le pas de la porte de ces lieux publics, gratuits, qui regorgent de culture. À l'origine, à cause d'une overdose des Spotify, Deezer, où l'algorithme te fait subir des nouveaux titres, des playlists, sans vraiment profiter des albums dans leur entièreté, alors je me suis déplacé à la bibliothèque de la Grâce de Dieu, et là, que ne fut pas ma surprise, des bacs de CD remplis de tous les styles, de la nouveauté, des albums mythiques historiques. Allez, ni une ni deux, direction l'accueil, un justificatif de domicile qui approuve que j'habite à Caen-la-Mer, et en 5 minutes, j'avais ma carte qui me permettait d'accéder à un océan de culture. Alors je pouvais repartir avec 30 documents, livres, BD, CD, magazines. Amazing! Je scanne en 2-2 mes trouvailles, donc CD et BD, toujours, j'ai pas changé. Avant de repartir, tout est moustillé. Et tu sais pas ce qu'elle me dit, la dame de l'accueil? Mec! Attends, c'est pas fini! Si tu veux, tu peux t'inscrire aussi sur le site de la bibliothèque numérique de Caen-la-Mer. Et là, tu as accès à des films, de la formation, de la musique, des livres audio, des livres adaptés 10, de la jeunesse. Wow, it's vraiment amazing! En rentrant chez moi, direct, je me suis inscrit à la médiathèque numérique avec le code de ma carte de bibliothèque. Et là, que ne fut pas ma surprise! Plus de 9000 films, documentaires, séries, spectacles, magazines. Wow, amazing! Je quitte Netflix pour une plateforme gratuite avec des super films. Alors j'ai vérifié pour vous ce soir, c'est accessible partout dans le Calvados et dans l'Orne. Alors concernant le Calvados, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Orne, mais on a 10 crédits par mois, donc un crédit pour les films sortis il y a plus de 12 mois. J'ai checké, il y a quelques petites références quand même, OSS 117, La Guerre des Boutons, Au revoir là-haut, Parasite, et 2 crédits pour les films sortis il y a moins de 12 mois. Bon, j'en ai gardé qu'un, mais il y a Flo, l'animé là, qui a été récompensé aux Oscars, au César, qui est dispo sur la plateforme. Alors bon, début février, on est passé de 20 crédits à 10 crédits par mois. Alors peut-être qu'on pourra m'expliquer tout à l'heure pourquoi en plateau. Peut-être est-ce lié à des coupes budgétaires dans le secteur culturel décidées par l'État, car la priorité, c'est bien comme en 2024, de faire croître les dividendes de nos actionnaires. Bon, je fais des raccourcis, je m'en fous, je me prépare. Dans une heure, j'ai une rencontre avec Olivier Besancenot au Café des Images. Oui, oui, c'est vrai. Wow, amazing, je me suis encore écarté. Allez, je profite du temps qu'il me reste pour aussi vanter les mairies de toutes les bibliothèques médiathèques du territoire qui proposent aussi énormément d'actions de médiation culturelle. Alors à ce titre, le Media Lab a été sollicité par certaines d'entre elles. Je me permets de vous citer quelques actions. Alors avec l'asso, on participe au projet Deviens Jeune Reporter où nous accompagnons des jeunes à l'apprentissage du journalisme avec le réseau des bibliothèques de l'Orne et le Média Grand Format, une série de vidéos de reportages qui est réalisée par des jeunes et qui sera diffusée courant avril. On pourra aussi se retrouver le 27 juin à la médiathèque Le Phénix de Colombelle, pour ton plaisir, Lafken.
Amen.
Et amen, pour un plateau radio en partenariat avec l'Avenir des Pixels pour aborder avec deux journalistes leur travail et les grands défis du journalisme. Et entre septembre et novembre à la bibliothèque Alexis Tocqueville de Caen, où nous sommes sollicités pour mener des actions de médiation radio auprès des publics en lien avec une exposition sur l'eau. Voilà, c'en est tout pour moi. Vive les bibliothèques, vive la culture, vive les espaces publics gratuits pour toutes et pour tous.
Wow.
Merci Thomas, en tout cas d'avoir feuilleté justement tout ce système qui font fonctionner nos médiathèques. Alors effectivement, le principe de la boîte numérique est accessible à tous ceux qui font partie du réseau de Caen la Mer. Donc ne pas hésiter à en profiter, en plus quand c'est gratuit, c'est bien.
Il était une fois une programmatrice culturelle provenant de Mondeville qui apporta avec calme et passion son univers à nos oreilles. Voici Lila les Loirs.
Bonjour Lisa et merci d'être avec nous ce soir. Je pourrais utiliser 1000 mots pour te présenter, mais je vais te laisser le faire.
Bonsoir, merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Comment me présenter ? Eh bien, je pourrais juste dire que la littérature, c'est ma vie.
C'est une super présentation, j'ai envie de te dire. Moi, je vais avoir une question, c'est que du coup, tu es programmatrice culturelle. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste ton métier ?
Oui, alors c'est un peu un grand mot, hein, programmatrice culturelle, ça concerne plein de domaines différents. À la bibliothèque de Mondeville où je travaille, j'ai un peu deux casquettes. Je suis bibliothécaire, mais vraiment pour toutes les actions culturelles, voilà, je choisis des spectacles, des expositions, des ateliers. Je ne suis pas toute seule à choisir, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est de rendre l'écriture, la lecture accessible à toutes et à tous et ça passe par plein de médiums différents.
Alors je sens qu'effectivement tu as envie de le dire, donc est-ce que tu es souvent emmenée en fait à devoir choisir des animations qui vont se dérouler dans ton établissement? C'est quoi les éléments en fait qui vont t'aider dans ces décisions? Est-ce que par exemple pourquoi cette compagnie là, pourquoi cet artiste là ou pourquoi cet auteur là?
Bonne question, j'y pense un peu tous les jours. C'est pas facile tout le temps de choisir, surtout qu'il y a tellement de propositions différentes. Nous, comment on fonctionne, c'est très collectif en fait. On part soit d'une idée, d'une envie, d'un thème. Par exemple, au mois de mai, tous les ans, il y a la fête de la nature. Qu'est-ce qu'on fait autour de cet événement? Quelle exposition on peut programmer? Quel thème? Quel spectacle pourrait rentrer dans le thème? Enfin voilà, c'est un petit peu une démarche collective. Un peu, on sort plein d'idées, toutes et tous. On est 7 à travailler, 7 et 8, ça dépend des jours. Mais voilà, à la fin, oui, c'est à moi de choisir, mais toujours avec l'accord et l'envie des collègues, quoi.
Alors, je sais que tu as commencé il y a pas forcément très longtemps, donc en septembre dernier. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion peut-être d'être invité justement à des spectacles pour pouvoir peut-être les programmer dans une future programmation au sein de la médiathèque de Mondeville?
De Mondeville, tout à fait. Ça se fait, ça, je découvre aussi plein de choses en étant à ce poste-là, mais j'ai participé, je crois que c'était en novembre dernier, aux ateliers intermédiaires. En fait, ils font tous les ans un festival où il y a plein de compagnies qui viennent présenter leur travail en cours. que ce soit pendant des résidences ou des spectacles finis. Et là, c'est vraiment l'occasion pour les professionnels de venir rencontrer les compagnies et voir des présentations de spectacles. Et puis après, et ben, les programmer si ça nous plaît.
Alors du coup, avec cette idée un peu de spectacle, moi j'ai une question. C'est autrefois, en fait, les médiathèques, elles étaient considérées comme des zones où on ne devait pas faire un seul bruit. Vraiment, on a l'image de la bibliothécaire qui ferme un peu et puis le chhh. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est la même chose ?
Je pense que ça dépend des bibliothèques, ça dépend des lieux, des façons de travailler aussi des gens qui viennent ou des gens même qui sont employés par la bibliothèque. Nous, à Mondeville, plus il y a de bruit, plus on est content. L'idée, c'est que les gens peuvent venir aussi bien travailler que lire, que jouer à la Switch. On a une Switch accessible pour les enfants, mais pas que. Et on ne sera pas là à demander le silence, mais voilà, il y a des bibliothèques universitaires qui, elles, sont dans cette démarche-là de silence et de respect des autres. On se respecte, évidemment, mais je pense vraiment que ça dépend des lieux, quoi.
Alors là, du coup, tu dis qu'il y a des jeux vidéo en médiathèque.
Oui.
Alors, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont vraiment cette image de la médiathèque comme les bibliothèques. En fait, c'est que pour les livres.
Ouais.
Donc, des jeux vidéo en médiathèque.
Ouais, ça se fait de plus en plus. Alors, nous, on ne prête pas de jeux vidéo pour que les gens puissent repartir avec chez eux. Mais on peut jouer sur place. On n'a qu'une Switch pour l'instant. Et ouais, tout à fait, ça se fait dans d'autres bibliothèques. Et même bientôt, vous allez pouvoir emprunter des jeux de société.
Alors, en plus d'être médiathèque, vous êtes ludothèque, mais il y a plein de choses qui se passent. Et bah, du coup, en fait, justement, dans ton métier de programmatrice, tout à l'heure, tu parles aussi un petit peu de toute l'équipe qui est présente sur place. On leur fait un big up si jamais ils écoutent aujourd'hui. Le partage, en fait, justement, des compétences et des connaissances de ceux qui travaillent sur place et qui sont aussi présents à l'accueil, en fait, je pense qu'il est important. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de ces conseillers de l'ombre qui t'accompagnent
Ben, déjà, juste dire que vraiment mon équipe est incroyable. On est vraiment tous. Il y a un soutien et une bienveillance et on travaille vraiment main dans la main. Il n'y a pas juste moi qui suis au-dessus à chapeauter un peu toutes les actions et à donner ma vision. C'est vraiment tout le monde qui travaille ensemble. Chacun a un petit peu ses spécialités et ses sections. On a des collègues qui travaillent vraiment que sur la jeunesse. D'autres plutôt sur les adultes, mais voilà, ça peut se croiser aussi parfois. Chacun a des compétences différentes et des intérêts pour des sujets différents, mais bah, par exemple, j'ai un collègue qui est plus dans le jeu vidéo, l'informatique. En fait, c'est vraiment les passions de chacun qui m'accompagnent aussi pour faire cette programmation culturelle, quoi.
C'est-à-dire qu'en plus des spectacles classiques qu'on pourrait voir, ces mêmes agents vont pouvoir eux aussi proposer des animations à destination du grand public. Est-ce que tu as quelques idées en tête
Ouais, en fait, c'est vraiment... Soit on fait venir des intervenants extérieurs pour des ateliers, soit nous, on en fait nous-mêmes des ateliers. Je pense à mes collègues Xavier et Maxime qui font des ateliers sur Scratch. Avec des publics en situation de handicap, bon bah c'est vraiment eux qui mènent les ateliers. Ils sont pas juste bibliothécaires ou juste à faire l'accueil. Ils accompagnent le groupe et c'est vraiment super. Il y a un lien qui se tisse quand on voit après les personnes des ateliers revenir en bibliothèque. Ils nous reconnaissent. Enfin c'est vraiment super. On a plein de casquettes différentes finalement.
Ouais, c'est que vous créez du lien avec le public qui vient vous voir au sein de la médiathèque.
Ouais.
Donc effectivement, ça casse un peu cette image du lieu où on venait que emprunter un livre et terminer. Là, avec toutes les actions qui s'y mènent aujourd'hui, bah, c'est un nouveau lieu de vie, en fait.
Tout à fait. Même nous, dans nos métiers, on n'a pas juste une tâche attitrée. C'est vraiment hyper varié. On fait aussi bien de l'accueil que d'être derrière le bureau à... Voilà, bah, comme tu dis, programmer ou concevoir des ateliers, à gérer nos fonds aussi de documentaires ou des romans, des BD. C'est nos journées, je pense vraiment, on ne s'ennuie pas une minute, quoi.
Alors du coup, là, tu viens d'utiliser un mot qui est assez, assez intéressant, c'est le mot fond.
Ouais.
Est-ce que pour notre public, tu pourrais expliquer, alors la demande va être un peu simple, mais qu'est-ce que c'est justement ces fameuses histoires de fond ? Parce qu'on voit très souvent le métier de médiathécaire ou de bibliothécaire. Beaucoup de gens ne voient que la façade un peu avant. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière le back-office, comme on dit
Un peu le chemin du document. Ben, on le choisit sur un logiciel. Et après, voilà, on passe une commande auprès d'une librairie. On le reçoit et puis on l'équipe. Ça, c'est aussi un mot que j'ai appris en arrivant en bibliothèque, d'équiper un document, de le rentrer dans la base, de le couvrir. Alors, on essaye de couvrir moins les livres. Par souci écologique, on essaye de mettre moins de plastique. Et après, voilà, c'est dans la base et on le met dans le rayon. Après, les gens peuvent l'emprunter. On a aussi, je découvre ça, des statistiques pour voir combien de fois a été emprunté le document, pour pouvoir désherber un autre mot que j'ai appris. Donc, on enlève aussi les documents qui sortent pas trop, où on voit qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et les fonds, c'est un peu les thématiques, spécialités de chaque livre ou chaque section. Moi, par exemple, je m'occupe du fond documentaire. Donc, c'est un peu tous les livres qui ne sont pas de la fiction, les livres de cuisine, les livres historiques, les biographies. Un peu tous ces livres-là qu'on retrouve dans la bibliothèque. Et j'ai des collègues qui sont sur les fonds jeunesse, donc la BD, les premiers romans, les albums, et évidemment des romans et des DVD. Voilà.
Donc effectivement, avec cette idée de fonds documentaire, tu vas pouvoir à la fois miser un peu aussi sur les animations. Oui. Donc c'est très intéressant de découvrir ça. Alors je parle aussi en connaissance de cause, étant médiathécaire moi-même. Je ne poserai pas de questions de piège un petit peu sur le côté peut-on tout mettre au sein de la médiathèque. La réponse, fatalement, est non.
Effectivement, on en parlait encore aujourd'hui avec les collègues. C'est des questions qu'on se pose tout le temps.
Merci beaucoup. On reviendra vers toi tout à l'heure pour continuer un petit peu avec d'autres questions. En attendant, en fait, on va partir sur un interlude musical venu d'Angleterre, Lucy in the Sky with a Diamond des Beatles.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
C'était Lucy in the Sky Diamonds des Beatles sur Bonjour Turbine en direct de Station B. Mais quel est le lien avec les bibliothèques, me diriez-vous ? Eh bien, ce morceau est inspiré du superbe Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll.
C'est pour ça que j'ai l'impression que le chat du Cheshire n'est jamais loin quand je l'écoute. En tout cas, maintenant, on va laisser place à notre harlequin, notre scapin à nous. Je parle bien évidemment de David.
Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque, sinon une fabrique de rêves ? Un voyage imaginaire autour d'une médiathèque. Moi, ma médiathèque préférée est celle du Quai des Mondes à Mondeville. Je suis donc sur un quai du meilleur des mondes possible, comme dit Voltaire dans Candide. J'entre en gare, je vais prendre un train. Lequel ? Je ne sais pas encore. Un TGV ? 3 minutes pour comprendre la Bible ? Un rapide ? Les nouvelles de Maupassant ? Un train de nuit, la Chartreuse de Parme ? Ou carrément soporifique, triste tropique de Lévi-Strauss ? Je ne sais pas encore quels livres vont retenir mon attention. C'est un moment magnifique que celui du choix. Colette disait « Lire, c'est comme fumer des cigares enchantés. On est transporté, on s'instruit, on devient quelqu'un d'autre, un héros. » D'ailleurs, je tombe sur les trois mousquetaires et me voilà au milieu de 4 lascars prêts à en découdre. Porthos m'interpelle. Hier, j'ai abusé de la liqueur qui porte mon nom. Auriez-vous un Doliprane ? Et si je prenais maintenant un train de sénateur ? Entre en gare un wagon tiré par un cavalier muni d'une lance et affabulé d'un casque. C'est Don Quichotte sur le dos de sa jument rosinante qui nous invite à un voyage pittoresque au pays des moulins, des chimères et des utopies. Je laisse passer la clash pittoresque et continue ma prospection. Cyrano de Bergerac, c'est comme Pinocchio ou Cléopâtre, une histoire donnée. Je croise Alain de Bonjour Turbine, le fameux conteur flâneur, en compagnie de Sherlock Holmes, qui promène rente l'emplan. Ils sont sur la piste de Dark Vador. Mais ces fins limiers tournent en rond, comme les Dupont dans l'or noir. Quant à Robinson Crusoe, il nous emmènera peut-être en voyage sur son île déserte. Mais là, il faut prendre un vol de nuit avec Saint-Exupéry et partir de Roissy-Charles de Gaulle. J'hésite. Je tombe sur Raymond Devos qui propose un voyage en Absurdie. Quand le train qui passe par 7 et 3 part-il ? À 10 ! Car 7 et 3 font 10. Je suis quand même venu pour emprunter des livres, il va falloir que je me décide. L'amour dure 3 ans, ça c'est le train des sentiments en CDD. Finalement, il faut bien se limiter. On ne peut pas emmener toute la comédie humaine de Balzac sous son bras. Je repars malgré tout avec une ménagerie. Un singe en hiver d'Antoine Blondin, La panthère des neiges de Sylvain Tesson et Les oiseaux d'Hitchcock. Lire, c'était lire, il faut choisir. Alors, bonne lecture et à bientôt.
Il doit en dévorer des livres, notre cher David, pour écrire aussi bien.
C'est notre Flaubert moderne. En tout cas, moi je reviens vers Lisa. On va continuer un petit peu ton interview pour repartir dans le monde des médiathèques. Alors du coup, tout à l'heure on s'est arrêté effectivement sur toute l'idée un petit peu de ton équipe et des fonds documentaires. Mm-hmm. Moi j'ai quelques questions un peu plus générales. C'est vraiment aujourd'hui en fait la médiathèque de Mondeville, elle fait partie du réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer. En fait, est-ce que ce réseau, ça va avoir en fait des avantages ou des inconvénients dans le cadre de tes missions ?
Alors, pas dans mes missions directement. Encore une fois, moi, je découvre un peu tout ce monde de bibliothèques, médiathèques, de réseaux. Le réseau de Caen-la-Mer, c'est vraiment beaucoup de bibliothèques autour de Caen. On peut, par exemple, emprunter des livres à Mondeville et les rendre dans les bibliothèques de Caen. Ça, c'est dans un souci un peu de facilité pour les usagers et les usagères de pouvoir rendre facilement les documents sans avoir à se déplacer jusqu'à Mondeville. Parfois, on peut aimer la bibliothèque de Mondeville, mais ne pas habiter à Mondeville. Ça arrive. À l'inverse, voilà, on peut emprunter à Caen, qui a des fonds beaucoup plus conséquents qu'à Mondeville. Nous, on a, je crois, à peu près 30 000 documents. Je ne sais pas combien ils en ont à la bibliothèque Alexis Tocqueville, mais c'est beaucoup plus. Ils sont plus pointus sur certains sujets, donc voilà, les gens peuvent emprunter là-bas, mais les rendre à Mondeville. Ça, c'est vraiment pour faciliter les échanges. Les inconvénients, pour l'instant, je n'en vois pas, mais peut-être que j'en verrai plus tard. Mais non, au contraire, je trouve que c'est chouette de travailler en réseau. Je trouve ça très sympa aussi de s'appeler un peu tous collègues, voilà, de se dire qu'on fait partie tous du même milieu, qu'on a un peu toutes et tous les mêmes préoccupations, en tout cas l'idée de rendre accessible la lecture, quoi.
Alors moi, je voyais effectivement parfois dans le terme un peu inconvénient, ça pouvait être des idées d'animation ou de spectacle que tu souhaitais peut-être mettre en place, mais qui avaient déjà été diffusées en fait dans d'autres médiathèques. Mmh. Est-ce que ça peut être un frein pour vous, ou au contraire, vous dites, certes, notre public a peut-être pas vu ce spectacle-là, on va peut-être le proposer aussi chez nous.
Moi, je ne vois pas comme un frein, mais comme tu dis, de se dire que ça permet de tourner aussi entre les publics. Je sais qu'il y a des publics qui sont très fidèles à leur bibliothèque et qui n'iraient peut-être pas voir dans les autres ce qui se fait. Donc si des spectacles peuvent tourner entre les bibliothèques, je trouve que c'est plutôt un avantage. Ça fait aussi du travail pour les compagnies et c'est plutôt sympa pour elles. Donc non, je ne vois pas trop comme un inconvénient. L'idée, ce n'est pas non plus de faire ce que font les autres. On peut s'en inspirer et parfois voilà, programmer des choses similaires, mais l'idée c'est aussi peut-être d'avoir une proposition différente, variée, qui se complète, mais ouais, c'est pas trop un inconvénient.
Alors ce ne sera pas une question piège, je te rassure, mais dans la programmation passée en fait, de la médiathèque Quai des Mondes, vous avez eu la possibilité d'avoir des rencontres d'auteurs comme Michel Bussy, des thématiques sur le sport en avril dernier, ou même différents artistes. Pour tes futures programmations, tu te bases sur les actions menées en amont ou tu souhaites plutôt ajouter ta patte en amenant des thématiques qui te sont chères ?
Un peu les deux. On a en fait des événements récurrents qui sont vraiment là d'année en année. Je parlais très rapidement de la fête de la nature tout à l'heure. À chaque fois, en mai, tous les ans, il y a la fête de la nature et là, c'est vraiment un événement de la ville de Mondeville. Donc on s'attache à perpétuer un petit peu la tradition. Il y a des lectures aussi pour les enfants qui s'appellent les Fabulettes pour les 0-3 ans. Ça, c'est quasi tous les mois. Donc voilà, ça revient. Mais j'essaye d'apporter aussi ma patte, comme tu dis. Moi, je suis très attachée à la littérature et à l'écriture. Et donc, en avril, on va faire le Printemps des Poètes. Et ça n'avait jamais été fait à Quai des Mondes. On va accueillir je spoil un petit peu, mais un atelier d'écriture avec une poétesse et un spectacle qui est tiré d'un recueil de poésie. Donc ça, c'est une chose que j'amène. Et l'idée, c'est de présenter à mes collègues ce que j'aime et de voir si ça marche. Pour l'instant, j'ai de la chance, ils ont tout le temps aimé ce que j'ai proposé.
C'est bien, en plus, sur Bonjour Turbine, on a eu une exclusivité. Oui. C'est que vous allez avoir le Printemps des Poètes au sein de Quai des Mondes. Comme quoi, sur Bonjour Turbine, on peut avoir des super infos.
Tout à fait.
Est-ce que tu as effectivement peut-être même sur des thématiques qui sont peut-être déjà passées, que tu as eu l'occasion peut-être de feuilleter déjà ce qui a été fait par le passé au sein de Quai des Mondes, ou comment t'en es arrivé un petit peu dans ce cœur de métier ?
Oui, la personne qui était au poste avant moi a gardé toutes les plaquettes de programmation. Donc là, j'ai amené celle du trimestre qui arrive, mais du coup, les auditeurs, auditrices ne pourront pas voir encore.
Ils le trouveront sur Internet.
Voilà, quand ce sera dispo bientôt, j'espère. Donc j'ai pu consulter toutes ces plaquettes des années précédentes. Et puis j'ai des collègues qui sont là depuis l'ouverture de la médiathèque en 2015, qui donc ont pu me faire un peu un récap de tout ce qui s'est fait. Et voilà, j'ai encore une fois, en fait, mon travail en collectif, quoi.
Je crois que c'est le maître mot oui. Des bibliothèques, c'est le mot collectif qui prime un peu surtout. Est-ce que tu as une petite anecdote justement en fait à nous partager sur ce que tu as pu vivre en fait pour l'instant au sein de la médiathèque de Mondeville, ou peut-être même sur l'univers en fait des médiathèques de manière plus générale?
J'ai réfléchi un petit peu à la question en même temps. J'ai pas forcément d'anecdote. Après, je veux pas non plus parler des publics en particulier, mais parfois on est un peu surpris par des publics, on est un peu décontenancé par des demandes ou voilà, c'est aussi ça de travailler, je pense, en médiathèque, c'est d'être tous les jours avec des publics à la fois différents et certains qui viennent en fait tous les jours. Ce que je peux dire, c'est que par exemple, on a un usager qui vient tous les soirs consulter des périodiques et regarder un peu nos prospectus, mais vraiment tous les soirs. Et ça, je trouve ça assez, assez touchant finalement. Et ça fait partie voilà, des gens qui viennent en bibliothèque. Quoi.
En fait, vous êtes un peu comme une deuxième maison pour, ouais. pour les gens. Du coup, je crois que Marion, notre technicienne, a une petite question aussi à te poser.
Alors, c'est autant pour toi, Lafken, que pour Lisa, comme ça, c'est pas une question piège non plus. Mais quand tu disais tout à l'heure, pour les documents que vous les achetez en librairie, est-ce que vous faites appel aux librairies de Caen ou plutôt...
Oui. Ouais. Nous, on travaille avec le Brouillon de Culture à Caen. Et je crois que c'est des marchés publics, en fait, pour se fournir les documents. Donc, pour l'instant, c'est le Brouillon de Culture. Et je crois que ça change à chaque bibliothèque. Je crois que
alors, toi, effectivement, Lafken, nous, du côté de la médiathèque de Colombelle, on fonctionne. Alors, en fonction, effectivement, des fameux fonds, on va avoir la librairie Guillaume pour tout ce qui va être ouvrage littérature adulte. Et d'autres partenaires comme Médérard pour tout ce qui est jeunesse. Et même... le Cheval Crayon ouais. pour les tout-petits.
Nous, c'est pareil, c'est Bédérard et Cheval Crayon aussi pour les tout-petits.
Ils ont un peu le monopole, en fait, sur le côté ouais. jeunesse. Ça marche bien, ils ont beaucoup de choix de ce côté-là.
Eh ben, merci beaucoup. Comme merci. Ça, c'est vraiment ce côté collectif. Vous l'appliquez aussi à la ville et ouais. tout ça. C'est vachement intéressant.
Alors après, du coup, justement, là, si tout de suite, en fait, on t'offrait un petit instant promo, pour rameuter un max de public sur une animation, laquelle en fait tu nous mettrais en avant.
Eh ben, j'ai parlé du Printemps des Poètes déjà, donc faut que je trouve une autre exclue. Mais vraiment, c'est un événement là pour le Printemps des Poètes qui me tient à cœur parce que c'est une amie qui vient pour l'atelier d'écriture et pour son spectacle qui s'appelle Une zone de froid. Et je pense que ça va être un spectacle vraiment très très beau. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Je précise que tout ce qu'on fait, c'est gratuit. C'est important de le préciser parce que voilà, je sais que ça, enfin, parfois ça peut être payant. Mais en tout cas, à Quai des Mondes, tout est gratuit. Mais c'est sur inscription. Voilà, faut pas oublier de s'inscrire. On a une jauge de 80 personnes dans l'auditorium. Ça va vite, 80 personnes. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Peut-être pas quelque chose de précis, mais pour la fête de la nature, on va se concentrer sur l'eau. Je pense que pas mal de structures et de médiathèques vont avoir l'eau comme thématique cette année. On va avoir des balades dans le bois du Biesse derrière la médiathèque, des ateliers pour construire des maisons sur pilotis, en miniature, hein, évidemment.
Dommage.
Et voilà, vraiment une programmation thématique pour la fête de la nature qui va être super riche, super variée aussi. Là, j'avais plus de place dans ma plaquette de programmation pour rajouter des choses. Donc voilà, ça va bientôt sortir avant la fin du mois de mars.
Alors, je crois que notre Flaubert moderne, David, a aussi une question à poser.
Oui, alors comme je suis un peu utilisateur du Quai des Mondes, j'ai une question par rapport au... Pendant un moment, il y a eu des bénévoles à Quai des Mondes et qui faisaient une action qui était très intéressante. C'était le portage pour que les livres soient portés au public éloigné. Et la question, elle est simple, je voudrais savoir si ça existe toujours.
Ça existe toujours, le portage à domicile, et je me l'étais noté pour vous en parler parce que c'est vraiment une action qui est hyper importante, je trouve. C'est pour les personnes qui sont âgées, isolées, qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque, eh bien, on leur amène des livres. Bon, par contre, il faut habiter à Mondeville, c'est un peu la condition à Quai des Mondes. Mais voilà, vous pouvez prendre contact avec nous. Et mes collègues, c'est pas que des bénévoles, c'est aussi les collègues de la bibliothèque qui se déplacent, qui font un choix de livres selon les envies, selon les goûts des personnes qui veulent bénéficier de ce portage-là. Et après, au fur et à mesure de connaître les personnes, les collègues savent un petit peu les goûts et peuvent adapter les sélections. Et c'est les mêmes conditions que d'emprunter à la bibliothèque, c'est 30 documents pendant un mois. Et c'est gratuit.
Pour devenir programmatrice culturelle, est-ce que tu as un parcours spécifique ou est-ce que en fait c'est au fil de un petit peu ton, on va dire de ton chemin de vie où tu as fini par arriver là et comment en fait tu en es arrivée là ?
Vaste question.
Très vaste.
Non, moi j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études de lettres, j'ai fait une prépa littéraire, enfin vraiment. C'est un peu un parcours qui me destinait à être prof de lettres, mais j'ai décidé à un moment de ne pas faire ça et de m'orienter plutôt vers la médiation culturelle. J'ai eu plusieurs expériences dans plein de lieux différents en médiation et ça m'a amenée à trouver ma position face au public et puis aussi trouver ce que j'aimais dans les expos, dans le spectacle vivant, enfin, voilà, d'avoir un regard aussi qui s'aiguise au fil du temps. Et je suis arrivée à la bibliothèque de Mondeville donc en septembre, un peu par hasard. C'était un moment où je désespérais de trouver un emploi dans la culture. Et on m'a fait confiance à la bibliothèque. Ça, c'est vraiment une chance. C'est la première fois que j'ai un poste avec cette responsabilité-là aussi de programmation et d'être responsable en fait, des actions culturelles. Mais voilà, c'est pas mal d'expériences un peu décevantes auparavant qui m'ont aussi forgé à me dire ben, je veux faire ça et pas ça. Et voilà, c'est aujourd'hui je m'estime super chanceuse et j'ai l'impression que c'est de la chance, mais c'est peut-être aussi un peu de travail. Mais voilà, c'est en fait il y a plein de profils différents en bibliothèque, j'ai l'impression. Et je suis vraiment très très ravie d'être là.
Merci beaucoup Lisa en tout cas pour toutes ces précisions, merci. Pour toutes tes réponses, en espérant que le public soit présent au sein de la médiathèque de Quai des Mondes. Mais j'ai aucun doute sur ça.
Merci beaucoup.
Et maintenant, du coup, je vais inviter Dakota, qui lui vient nous parler de l'évolution des bibliothèques en milieu rural.
Oui, merci beaucoup Lafken. Moi, pour l'émission, je me suis intéressé au développement des bibliothèques, des médiathèques et surtout plus largement à l'accès à la culture en fait en milieu rural. Et je suis donc allé à la découverte de la médiathèque qui s'appelle le Jardin des Mots et qui est à Fontenay-le-Marmion, une commune d'un peu plus de 2000 habitants qui est située au sud de Caen. Et sur place, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert un lieu surtout très accueillant et un lieu où tout le monde se connaît, se tutoie. Et puis tout le monde vient créer comme ça un véritable espace de vie et d'échange, quoi. Et Laurence Legris, qui est adjointe au maire, aux associations et à la culture de la commune, m'a confirmé que justement créer du lien dans un espace d'échange et de proximité, c'était un des objectifs principaux de la municipalité. Et l'objectif a vraiment transformé la bibliothèque qui est passée de 70 mètres carrés à 200 mètres carrés en proposant aujourd'hui un lieu de ressources culturelles vraiment riche qui se développe de jour en jour. Parce qu'en complément des traditionnels livres et bandes dessinées, on peut maintenant y retrouver des films, des CD, mais aussi des jeux de société, des jeux vidéo et même des ordinateurs en libre utilisation. Et Maryse, la responsable des lieux, qui assure la gestion et l'animation avec une collègue, est épaulée par une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui enrichissent le programme culturel avec des nombreux ateliers créatifs comme du bricolage ou du dessin qui par la suite sont exposés dans la médiathèque. Et l'école de musique de Fontenay-le-Marmion y donne même quelques concerts, donc il y a beaucoup de choses variées dans cette bibliothèque, comme un peu partout maintenant, comme à Quai des Mondes. Et au fil des années, donc, le lieu s'est enrichi et le nombre d'adhérents a quasiment triplé parce qu'entre 2008 et 2024, ils sont passés de 300 adhérents à 900 aujourd'hui. Donc triplé, voilà, j'ai fait un petit calcul vite fait. Donc à force d'être développé, irrigué, entretenu et cultivé, le Jardin des Mots de Fontenay-le-Marmion est aujourd'hui devenu un lieu vivant, riche et créatif. Et c'est devenu le type de structure que l'on retrouve de plus en plus en milieu rural. Laurence et Maryse m'ont souligné que malgré la nécessité de pérenniser ces structures, un grand nombre de lieux culturels en territoire rural sont aujourd'hui encore animés par une équipe salariée qui est malheureusement très réduite et soutenue au quotidien, heureusement, par de généreux bénévoles. Donc prenons soin de développer nos bibliothèques et médiathèques en milieu rural, puisqu'au-delà du culturel, ce sont des véritables lieux d'échange et de vie sociale pour les habitants des communes et des villages.
Merci Dakota de nous avoir offert cette nouvelle perspective sur ces lieux de passage, de rencontres, de vie et de souvenirs. Quelle transition rêvée pour vous parler de mon rapport aux bibliothèques. Au début, les rayons sont pleins de couleurs, pleins de formes, pleins de textures, pleins d'odeurs. On les connaît par cœur. Entre histoire, science et contes de fées qui font peur. Puis c'est fini de lire assis sur la moquette de la bibliothèque. On embarque 2, 3, 5 ou 6 livres et BD sous les bras. Et au calme de la chambre, on glisse les pages entre les doigts. Un mélange de curiosité et d'impatience nous font lire toutes les lignes, même celles écrites en tout petit sur la quatrième de couverture. Car l'attente est la plus belle des saveurs, et savoir le prix de l'éditeur nous font attendre quelques secondes de moins avant mardi prochain. Les semaines passent, puis les mois, on change de rayon, plus uniforme, mais toujours gorgée de dragons, de vampires et de Goldberg. La magie nous guide et les couleurs de l'espace nous évadent de nos vies. Trop vite, ces étendues de livres deviennent nos vies rêvées, projetées puis passées. Car aujourd'hui, les rayons ont grandi, devenus plus gris, rectilignes. Les premières de couverture présentent qu'une image subjective d'une tranche de vie tragique. Enfin, on demande à nos parents « Comment tu peux lire un livre si moche ?» Et après, on comprend. La même curiosité du crime nous prend, les tranches de vie nous guident et les auteurs deviennent nos meilleurs amis dans la nuit. Mais comme tout le monde le sait, on ne peut pas juger un livre à sa couverture ni un rayon à la droiture de son rangement. Car pour les adeptes d'histoire, peu importe la taille du H, il existera toujours un livre qui nous attend quelque part. Alors merci à nos bibliothèques de nous offrir ces regards.
Waouh, j'avoue que ce texte, moi j'aimerais bien le publier dans ma médiathèque. En tout cas, au vu de ta plume inspirée, moi je vous propose aussi de rebondir un peu dessus et puis d'écouter le morceau « Le marteau et la plume » d'Oxmo Puccino.
La plume est revenue du futur, sûrement moins indulgente. Voir que des râleurs dans le rap, ça manque d'intelligence. Ignorant, les hyènes partiront puisqu'ils ne rentrent. Continuer de faire rêver, c'est inhérent. Écrire comme je respire, mon style enfile des perles. D'autres gages de langue, essuie des pertes. Croise-moi, bois le verbe facile. Pose les doigts, les chansons elles sont tactiles. Arriver meilleur et même plus qu'avant. S'affirmer 15 ans ne se fait que puissamment. C'est l'ego trip tocard, écoute les miss crier. Tu sais qui c'est ici, microphone premier. Entre le marteau et la plume, le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres. Entre le marteau et la plume, j'ai dû aiguiser mon âme que j'espère peu perdue. Bien avant son âge, la musique a fait que je baisse l'épée. Depuis, c'est le malaise d'un mec de Tess lettré. Il y a les fans d'un jour, celui de chaque période. Les retardataires attendent que je m'améliore. Laissez l'artiste en paix, l'homme est moins commode. Tiens, une rime facile, yeah, yo, commode. Un cocktail de mots to love rempli le bidon d'insensé. Parler sans écouter, ce n'est pas bien pensé. Qui lance des pics sur un cactus est en fait lové entre le marteau et ma plume. Entre le marteau et la plume, le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres, entre midi et deux en déséquilibre. Entre le marteau et la plume, le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres. On me situe ailleurs qu'entre le marteau et la plume. D'ailleurs, va voir si j'y suis. Vais-je m'excuser de mes ressemblances? Poète au regard frais, vraisemblant. Je m'obstine à chiner des petites phrases qui tapent. Pour être questionné sur les M6 qui se battent. Pas besoin de tellement d'avis, je n'attendais personne. Le marteau casse, la plume est perçante entre nous l'étendail. Un signal hypersonique, le mix validé avant que tu l'aperçoives. La plume, je la tiens d'un bout de toi. Le plat du marteau d'eau, jamais loin de moi. Entre le marteau et la plume, le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres, entre midi et deux en déséquilibre. Entre le marteau et la plume, le soir j'écris des chansons. Le matin j'écris des livres, entre midi et deux en déséquilibre. Entre le marteau et la plume, entre midi et deux en déséquilibre.
Excuse. C'était le marteau et la plume d'Oxmo Puccino sur Bonjour Turbine en direct de Station B. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous pourrez rattraper le début de l'émission sur Deezer, Spotify ou l'audioblog d'Arte. Aujourd'hui, ça parle bibliothèque et médiathèque.
Et nous avons l'immense honneur avec Léna, de signer le préambule d'une nouvelle chroniqueuse qui vient parmi nous dans Bonjour Turbine, la bien nommée Dorothée.
Bonjour tout le monde, je profite de la venue de Lisa Leloir pour parler de langage et plus précisément d'écriture inclusive avec cette question: comment écrire ou parler inclusif facilement, sans alourdir les phrases, ni être taxé d'horribles féministes. Même si je suis sûre que vous connaissez tous plus ou moins ce qu'est l'écriture inclusive, reprenons depuis le début.
L'idée, c'est de communiquer de manière à ce que toutes les personnes se sentent incluses, en faisant bien attention à pas à éviter tous les stéréotypes, justement. Et aussi, il y a une partie qui consiste à donner plus de visibilité aux femmes.
Écrire ou parler de façon à ce que tout le monde se sente inclus, premier point. Deuxième point, éviter les stéréotypes, notamment de genre. Et troisième point, donner plus de visibilité aux femmes. C'est la définition que m'a donnée Marine Claes. Elle est traductrice, elle est cannaise, elle est cofondatrice de la société qui s'appelle Révolution Inclusive. Je vais vous en parler tout à l'heure. On va évacuer la première question, c'est celle du point médian. C'est ce point hyper chiant à faire sur le clavier pour ceux qui connaissent, parce qu'il faut appuyer sur trois touches en même temps avec les deux mains. Alt majuscule F, et par exemple pour écrire des métiers aux deux genres masculin et féminin comme rédacteur, donc point médian ICE, ou auteur point médian ICE. L'autre aspect chiant du point médian, c'est qu'il est vraiment visible et vraiment associé au combat féministe pour l'écriture inclusive, et l'écrire s'apparente pour certains à une démarche militante et ça peut rebuter. Or l'enjeu, c'est bien de diffuser la pratique de l'inclusivité, y compris, comme le dit Marine, en milieu hostile, entre guillemets. Et donc on peut, elle me l'a appris, pratiquer l'écriture inclusive sans ce fameux point médian, avec d'autres outils que je vais vous présenter, à commencer par le doublé.
Les solutions pour vraiment écrire ce qu'on aime bien appeler en sous-marin, ça va être de faire les doublés en toutes lettres. Par exemple, le français-française de De Gaulle, c'est de l'écriture inclusive.
Voilà, alors c'est rigolo de se dire que De Gaulle pratiquait l'écriture inclusive, mais c'est quand même un peu pompeux, mais pourquoi pas. Voilà une première méthode à utiliser. Autre manière d'être inclusif, éviter tout simplement le genre quand il n'est pas nécessaire.
Ça marche bien en reformulation aussi. Souvent dans les phrases, on se rend compte que le genre de la personne n'apporte rien au message. Par exemple, de dire que le rapport doit être remis au directeur ou à la directrice. En fait, on s'en fiche que ce soit un directeur ou une directrice. Le rapport, il doit être mis à la direction.
Alors, c'est vrai que l'exemple sonne bien, notamment pour les consignes ou dans des contextes un peu impersonnels. Mais comment ça se passe quand on utilise, par exemple, un adjectif? Souvent, il faut faire le choix, puisque la grammaire française impose cette magnifique règle que le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, on n'a pas le temps de commenter cette phrase. On y reviendra sûrement une prochaine fois. Mais si on veut respecter cette grammaire normative, on doit donc mettre au masculin. Par exemple, si on veut dire collectivement à Lisa qu'elle est bienvenue dans l'émission, on lui dit « on est très heureux de t'accueillir, alors que parmi nous, il y a autant de femmes que d'hommes, parce que c'est la règle. » Mais là aussi, on peut avoir recours à des astuces.
Des fois, utiliser ce qu'on appelle les verbes riches, ça marche bien. Au lieu d'être courageux ou courageuse, faire preuve de courage, par exemple. Donc c'est des petites astuces de dire comment je peux faire passer mon message. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, ou d'utiliser des mots qu'on va dire épicènes, donc qui ont la même forme au masculin ou au féminin. Par exemple, pilote, ça a la même forme. Acerbe. C'est là que des fois les dictionnaires de synonymes sont très utiles.
Et donc pour mon exemple, on dirait de façon plus inclusive pour accueillir Lisa. Lisa, on a le bonheur de t'accueillir. Voilà, comme ça, pas de problème. J'entends ce que vous vous dites, l'écriture inclusive, c'est quand même pas facile. C'est un peu pénible à pratiquer. C'est vrai, mais au début seulement.
Astuce toute bête déjà, surligner tous les masculins. Là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. La prise de conscience, déjà, elle est intéressante. Et puis, de prendre le temps, c'est un exercice de style, alors, qui va plaire surtout aux personnes qui aiment écrire, forcément, qui peut paraître peut-être rédhibitoire à d'autres, mais avec quelques astuces, finalement, ça vient vite. C'est un automatisme qu'il faut créer, il faut un peu, comme toute nouvelle habitude, il faut un peu de temps, mais ça se fait très bien.
C'est une gymnastique de l'esprit, donc c'est un pli à prendre. Et on peut, pour finir, avoir de l'aide avec notamment le collectif de Marine qui s'appelle Révolution Inclusive, qui propose des formations, des ateliers pour apprendre ces techniques, les utiliser, s'y mettre en fait. Elles ont un site internet qui s'appelle révolution-inclusive.com. J'ai découvert aussi un outil sur internet, sur inclusi.fr. Donc on met son texte et il nous le recrache en soi-disant en écriture inclusive. J'ai pas essayé, mais ça vaut peut-être le coup pour se faire aider quand on est vraiment motivé. Voilà quelques astuces pour que le masculin l'emporte toujours un peu moins sur le féminin.
Eh bien, merci beaucoup Dorothée et félicitations pour ta toute première chronique parmi nous.
Merci l'Afcad.
C'est au tour de Jonathan de nous offrir joie et bonne humeur avec un jeu descriptif, je crois, explicatif, je ne sais plus, en tout cas flou, ça j'en suis sûr.
Je suis producteur belge, je pense. J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman, Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège.
Allez, c'est le moment de jouer. Alors pour ce petit jeu, vous allez tester votre culture générale puisque je vous ai résumé des œuvres que l'on peut trouver en bibliothèque. Alors bien sûr, c'est pas sûr que ça soit bien fait, mais pour que ça soit plus simple pour vous, j'ai choisi 5 œuvres issues d'une liste de 100 œuvres sorties en mars 2019, établies par des statistiques de la plus grande base de données de bibliothèques au monde, qui représente 2 milliards de livres empruntés dont dans 18 000 bibliothèques à travers le globe. Alors pour que ça soit audible pour tout le monde, je vous laisserai répondre après avoir terminé mon pitch. Et je commence avec le premier pitch. Donc c'est l'histoire d'un ado un peu cabossé par la vie qui doit se battre contre un mec bien vénère. Lui et ses potes de l'internat n'ont pas vocation à devenir boulanger, pourtant ils aiment tous les baguettes. Il est aussi bien pote avec une sorte de punk à chien qui vit dans la forêt bien barbu et bien costaud. Avant ça, le héros vivait dans un placard après avoir perdu ses parents. Et je vous le passe les péripéties qu'il a dû traverser pour arriver jusque dans son école, entre virer en sidecar et traverser le mur. Il finit par arriver dans cette école spécialisée pour les enfants comme lui. Là, c'est un chapeau qui choisit sa classe. Pour monter dans sa chambre à l'internat, c'est une vraie galère avec les escaliers. Ses meilleurs potes sont une intello et un roux un peu débile. C'est à la fois un film et un roman. Le tout en 8 épisodes. Et son autrice était au bord de la banqueroute au moment où elle a écrit ce roman et qui est désormais devenue une spécialiste du « Je ne suis pas transforme, mais... » C'était...
Harry Potter et la coupe de feu.
Oh oui.
Moi, j'aurais bien dit Fast and Furious parce qu'il y a un petit côté magique aussi chez eux.
Ah ouais, 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 bah pourquoi pas. C'est peut-être le pitch de Fast and Furious aussi. À voir, peut-être pour le prochain. Petite idée. Ensuite, deuxième pitch. Alors en fait, là, c'est un monsieur, alors un chevalier qui part pour délivrer sa chérie. Il y va avec son copain, il combat des géants, il combat des méchants, il a plein d'aventures de chevalier. Mais son copain pense qu'il fait des bêtises et que c'est pas bien ce qu'il fait. Il veut le raisonner, un peu comme quand maman me dit « Attention, la casserole est chaude, ça brûle !» Mais lui n'a peur de rien, il veut retrouver sa chérie à tout prix. En fait, c'est un bon chevalier parce qu'il a beaucoup lu de livres là-dessus, un peu comme moi qui demande à papa de me lire tous les Sam le pompier. Je sais tout sur les pompiers et je joue souvent aux pompiers à l'école, mais je ne suis pas un pompier, c'est ce que la maîtresse n'arrête pas de me dire. Mais moi j'aime bien quand même les pompiers, alors je me prends tout le temps pour un pompier, un peu comme ce chevalier. On a beaucoup d'imagination et on finit par y croire, bien que dans le fond on soit de vrais gentils avec de bonnes intentions. Et là...
Don Quichotte.
Ouais, oh. Bravo.
Bien
bravo. Là, pitch un peu plus sérieux. Alors, c'est une sorte de métaphore aussi cruelle que poétique du passage de l'enfance à l'âge adulte. Au départ, ce conte, il était destiné aux adultes, mais ensuite, le personnage a été repris, puis adapté pour plaire aux enfants. La morale de l'histoire est de savoir conserver une partie de son âme d'enfant, même en grandissant, et de trouver du merveilleux dans son quotidien. C'est l'histoire d'une fillette qui suit et rencontre des personnages tous plus ou moins loufoques les uns que les autres. Elle vit pas mal de péripéties qui lui permettent d'échapper à l'ennui dans une sorte de voyage initiatique où elle doit renoncer à ses fantasmes d'enfant pour grandir. C'est à la fois un film, un dessin animé, mais aussi un roman.
Et même une chanson adaptée par les Beatles.
Et voilà, et oui, c'était déjà spoilé avant que je fasse mon pitch.
Donc effectivement, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll.
Exactement. Et là, autre œuvre, donc c'est un succès planétaire puisqu'il a été traduit en 600 langues et autres dialectes différents. Tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois. C'est quelqu'un qui raconte ses péripéties à quelqu'un d'autre. Il en ressort pas mal d'expressions assez connues de ce livre. Il n'est pas très gros et on peut lire très facilement. C'est l'aventure d'un garçon qui décide de quitter sa planète et de partir en voyage dans l'univers pour se faire des potes après avoir vu pousser une fleur. Dans sa quête, il rencontre un monarque, un allumeur de réverbères, un businessman... un géographe, un renard et un aviateur à qui il raconte son histoire. Celui qui a écrit ça a donné son nom à un aéroport. Il a aussi fait de belles aquarelles pour ce livre. Et là, c'est très facile.
Le plus beau des livres.
Le plus beau des
princes.
Ah, ouais.
Celui qui a marqué, je pense, un paquet de générations.
Ouais, ouais. Je pense qu'on l'a tous lu. Ouais. Autour là de la table, ouais, tout le monde l'a lu.
Et qu'on peut lire à plein d'étapes de sa vie.
Oui, bah voilà. Oui.
Je pensais que tu allais dire on peut le lire à la médiathèque de Mondeville.
Alors oui, aussi.
Ah, aussi, ouais. Faire un peu de pub.
Il est classé en jeunesse, mais les adultes peuvent le lire.
Eh bien, on ira le relire. Alors là, c'est l'histoire d'une dame mariée qui vit en province et qui, pour tromper l'ennui, trompe son mari en multipliant les adultères, le tout bien avant Tinder. Elle idéalise sa vie et vit au-dessus de ses moyens. Elle rêve d'une vie passionnée et excitante et n'est donc pas satisfaite de la sienne. Petit à petit bercée par ses illusions romantiques et ses désirs inassouvis, elle se perd dans des relations qui la plongent dans un désespoir constant. Au travers de ce personnage, le roman explore aussi la condition féminine des femmes de cette époque. Et spoiler alert, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Elle est mariée à un médecin et l'intrigue se passe en Normandie. Et là, vous répondez...
Madame Bovary.
Ouais, trop fort. Et là, encore, bah, là, c'est simple aussi. Là, c'est l'histoire d'un jeune matelot qui débarque sur la Canebière après la mort de son capitaine. Mais pour les supporters de l'OM inquiets, je ne parle pas de Valentin Rongier ou de Balerdi. Le mec est amoureux d'une fille qui a un nom de bagnole et ils vont bientôt se marier. Sauf que le cousin de cette fille veut aussi la pécho. Oui, son cousin. Alors, avec un pote à lui, lui aussi jaloux de ce jeune marin, il veut échafauder un plan machiavélique, si je puis dire, pour le faire tomber. Résultat, il se fait arrêter le jour de son mariage devant sa gâtée, comme on dit à Marseille. Alors qu'il n'a rien fait, il finit en prison, mais pas au Baumettes, mais sur une île, mais pas celle du Frioul, dont il réussit à s'échapper en se faisant passer pour mort. Ensuite, tu as compris, il veut se venger, arracher la tête de tous les gens qui l'ont engâté. Dans son malheur, il va découvrir un trésor à l'aide duquel il va planifier cette vengeance.
Le comte de Monte Cristo, voilà. D'Alexandre Dumas.
Et en fait, raconté comme ça, j'ai même l'impression qu'en fait, les scénaristes de Plus belle la vie sont des oh, un truc à faire.
Eh bah ben ouais, et ouais, peut-être qu'ils sont inspirés de ça.
Eh bah ben merci voilà. Jonathan, en tout cas, pour ce jeu qui aura su réveiller les littéraires présents au fond de notre âme. Je profite du temps qui nous reste pour, à mon tour, en fait, parler un petit peu de ces lieux qu'on vous a présentés tout au long de cette émission. Parce que mes mots seront aussi ceux d'une personne qui travaille activement dans une médiathèque et qui a grandi en se baladant en fait dans les rayons d'une bibliothèque. Ma mère, big up à elle si elle nous écoute ce soir, travaillait au sein d'une bibliothèque. En fait, je la voyais souvent revenir avec des livres, plein de livres. Quand on avait l'occasion, en fait, on se rendait là-bas et on voyageait entre les mots, les illustrations et même les notes de musique de la CD-Tech. Je m'imaginais tel Bastien et Atreyu, vivant des histoires fantastiques et une histoire sans fin. Mais le temps passe, les hobbies évoluent, comme disait Thomas. De Harry Potter, je suis passé à la lecture de Chatham, puis à celle des articles qui occupent nos petits écrans. Et cet écran, ce tout petit écran, qui depuis a pris une place tellement plus importante. Ou imposante, je devrais dire. Mon bouquin, qui traînait autrefois sur la table de nuit, est maintenant au fond d'un carton. Et il y est resté pendant longtemps, de déménagement en déménagement. Et un beau jour, je suis arrivé à occuper une fonction dans une médiathèque. Le bouquin, il est resté dans le carton, parce que maintenant j'en ai des milliers à disposition. Ça fait maintenant 6 ans... que je déambule entre ces rayons, et l'image que j'avais de la médiathèque a pris une autre tournure. Adieu le lieu silencieux où le moindre pé de mouche se faisait entendre. Aujourd'hui, on a des gens pleins de vie qui parlent, boivent leur café, assistent à des concerts. On a aussi les familles pour qui ce lieu est une deuxième maison, où on connaît les histoires de cœur, et même plus de certains. Où on parle aussi des souvenirs avec cette personne qui a perdu un proche il y a peu, et que sur sa carte, en fait, restait un seul livre, donc malheureusement, il emportera avec lui le secret sur son emplacement. Être médiathécaire, c'est aussi travailler avec les livres et avec les gens. C'est être le gardien de ce savoir et de gardienner les enfants qui courent et qu'on rappelle à l'ordre. C'est surtout se battre, être un chevalier ou une guerrière qui lutte contre la désinformation ou l'obscurantisme, les idées reçues en fait qui peuvent surgir de n'importe où. Et la désinformation, c'est un peu devenu notre ennemi commun. Quand on voit qu'outre-Atlantique, il y a un homme qui utilise la fake news à tout va, même devant un président français qui se doit de le rectifier et qui se remet à propager sa fausse idée 2 secondes après. On se dit que les médiathèques doivent devenir des places fortes pour lutter contre ce fléau. À ce titre, la médiathèque de Colombelle a tout un programme d'éducation aux médias et à l'information qui en est à sa 4e année. C'est le projet Hémisphère, en fait, qu'on mène avec Timothy Duquesne. Et là, pour aider les gens à mieux comprendre les médias avec un grand M, que ce soit Internet, la télé, la littérature, les arts, on ratisse large pour montrer qu'avoir un esprit critique vous permettra d'avoir une meilleure vision des choses. Alors à tous les bibliothécaires, médiathécaires, libraires, documentalistes et ceux qui travaillent avec les livres, courage et tenez bon, un jour viendra où... J'ai plus de place sur la plage. En tout cas, je tiens particulièrement à remercier l'équipe ce soir qui nous a accompagnés. Thomas, David, Dakota, Dorothée, Jonathan et Léna qui a été la meilleure des co-animatrices. Marion à la technique. Et je vous garantis qu'un jour, cette équipe, ils deviendront les meilleurs de Bonjour Turbine. En attendant, vous pourrez toujours réécouter l'émission en podcast sur l'audioblog d'Arte, sur Spotify ou sur Deezer. Merci beaucoup et à la prochaine pour l'émission de Bonjour Turbine.
On rapporte une histoire abracadabrantesque.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis le bruit et la fureur.
Travaillez plus pour gagner plus.
Je vous demande de vous arrêter.
Il est là,
le réchauffement climatique. -3 degrés ce matin.
T'es le roi des cons.
au pays des emmerdeurs.
Pas content, pas content.
On s'énerve pour rien, vous vous énervez pour rien.
Pas content.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Tout de suite là, ça a commencé.
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
On est à l'antenne depuis 5 minutes.